Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Anatomie et physiologie humaine » de Gérard G. Tortora est un manuel universitaire consacré au fonctionnement du corps humain et aux structures qui le rendent possible. Cette sixième édition française, entièrement actualisée selon la présentation éditoriale disponible, associe anatomie descriptive, physiologie des systèmes et vocabulaire médical normalisé. Son objectif est de donner des bases scientifiques solides en reliant constamment la forme des organes, des tissus et des appareils à leurs fonctions. Le livre ne traite donc pas le corps comme un inventaire de parties isolées, il explique les mécanismes qui maintiennent les conditions nécessaires à la vie, depuis le niveau cellulaire jusqu'aux interactions entre systèmes. L'ouvrage se distingue aussi par une forte orientation pédagogique, avec objectif de chapitre. Illustrations en couleur, points de contrôle, applications cliniques et ressources numériques selon les éditions. Destiné avant tout aux étudiants des disciplines de santé. Il peut également servir de référence structurée aux lecteurs souhaitant comprendre les grands principes biologiques du corps humain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'homéostasie comme principe organisateur du fonctionnement humain, le fil directeur du manuel est l'homéostasie, soit le maintien d'un équilibre physiologique dynamique malgré les variations du milieu interne et de l'environnement. Cette notion permet de dépasser une vision statique de l'anatomie. Une structure corporelle devient compréhensible par le paramètre qu'elle contribue à réguler température, concentration de substances dissoutes, pression, oxygénation ou disponibilité énergétique. Le lecteur est ainsi conduit à examiner les boucles de régulation plutôt que de mémoriser seulement des listes de termes. Dans un mécanisme de rétroaction négative, une modification est détectée, intégrée puis corrigée par une réponse appropriée. Ce modèle éclaire le rôle coordonné des récepteurs, des centres de contrôle et des effecteurs. Il montre également pourquoi un système sain ne conserve pas des valeurs absolument fixes, mais les maintient dans des plages compatibles avec la vie. Le manuel souligne que la régulation a des limites. Une perturbation trop intense, durable ou mal compensée peut conduire à un déséquilibre physiologique et fournir un cadre pour comprendre la maladie. Cette approche donne une cohérence transversale au chapitre système nerveux, endocrinien, cardiovasculaire, respiratoire, rénal et tégumentaire participent tous, selon des modalités distinctes à cette stabilité interne. Elle constitue donc une méthode de lecture aussi bien qu'un contenu fondamental. Deuxièmement, le lien structure-fonction pour apprendre les niveaux de organisation. Le livre organise la connaissance du corps autour de la relation entre structure et fonction. Cette relation est essentielle en anatomie et en physiologie. Les propriétés d'une cellule, d'un tissu, d'un organe ou d'un appareil ne sont pas interchangeables, car leur forme, leur composition et leur organisation conditionnent ce qu'elles peuvent accomplir. En partant des niveaux chimiques et cellulaires, le manuel établit les fondements nécessaires à la compréhension des tissus, puis des organes et des systèmes. Le lecteur peut ainsi relier les membranes aux échanges, les tissus musculaires au mouvement, les tissus nerveux à la communication et les tissus épithéliaux aux fonctions de protection, de sécrétion ou de transport. Cette progression limite le risque de réduire la physiologie à une série de mécanismes abstraits. Elle explique au contraire pourquoi la disposition d'une surface, la présence de certains types cellulaires ou la vascularisation d'un organe modifie sa capacité fonctionnelle. Les descriptions anatomiques prennent de ce fait une valeur explicative. Les illustrations détaillées et les photographies annoncées accompagnent cette démarche en rendant visibles les rapports spatiaux entre structures. Pour un étudiant, le gain est double: construire un vocabulaire précis et comprendre ce qui rend une fonction possible. Cette articulation prépare aussi la lecture de situations cliniques, où une atteinte localisée produit des conséquences prévisibles sur une fonction. Troisièmement, une étude intégrée des systèmes plutôt que des appareils isolés, anatomie et physiologie humaine présentent les grands systèmes de organismes en montrant leurs interdépendances. Cette intégration est importante car aucun appareil ne travaille indépendamment des autres. La circulation assure le transport des gaz, des nutriments, des hormones et des déchets. La respiration participe aux échanges gazeux. Les reins contribuent notamment au contrôle de la composition des liquides corporels. Les systèmes nerveux et endocriniens coordonnent des réponses rapides ou prolongées. Le manuel fournit donc un cadre pour relier des phénomènes qui sont souvent étudiés séparément au début de la formation. Comprendre une réponse de effort physique, par exemple, suppose de considérer simultanément la ventilation, le débit sanguin, les besoins énergétiques des muscles et les régulations nerveuses. Cette perspective a aussi une portée clinique. Un trouble respiratoire peut affecter l'oxygénation des tissus, tandis qu'une modification de l'équilibre hydrique peut influencer le volume circulant et la pression artérielle. Le livre insiste ainsi sur les conséquences en chaîne d'une perturbation physiologique. La présence de points consacrés aux applications cliniques aide à convertir les principes généraux en questions concrètes de santé, sans transformer le manuel en traité de diagnostic. Cette méthode est particulièrement utile pour discerner les causalités physiologiques des simples associations. Elle donne au lecteur une représentation fonctionnelle du corps entier, mieux adaptée aux besoins des études médicales, paramédicales et de réadaptation. Quatrièmement, la régulation nerveuse et endocrinienne comme langage de coordination, le manuel accorde une place centrale aux mécanismes de communication qui coordonnent organismes. La régulation nerveuse et la régulation endocrinienne ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions, mais elles permettent ensemble de détecter les changements, de transmettre une information et de moduler la réponse des organes. Le système nerveux est particulièrement adapté à des signaux rapides et ciblés, tandis que les hormones circulantes peuvent exercer des effets plus diffus et parfois plus durables. Cette distinction aide à comprendre pourquoi certaines réponses, telles qu'un réflexe ou une modification immédiate de l'activité musculaire, ne suivent pas le même rythme que les ajustements liés à la croissance, au métabolisme ou à la reproduction. Le livre relie ces voies de communication au principe de rétroaction et à la stabilité du milieu intérieur. Il évite ainsi de présenter les glandes, les neurones ou les récepteurs comme de simples éléments à identifier. Leur intérêt réside dans la logique de signalisation-émission d'un message, reconnaissance par une cible, réponse et modulation selon le résultat obtenu. La nomenclature médicale et internationale signalée dans cette édition renforce la précision nécessaire pour distinguer structure, substance et processus. Pour les étudiants, cette approche facilite la compréhension des interactions entre systèmes, notamment lorsque les réponses de l'organisme associent contrôle nerveux, médiateurs chimiques et effets sur la circulation, la digestion ou la thermorégulation. En dernier lieu, une pédagogie visuelle et active au service de connaissances denses. La valeur pratique du Tortora tient autant à son dispositif pédagogique qu'à l'étendue de son contenu. Anatomie et physiologie exigent de maîtriser un vocabulaire abondant, des relations spatiales complexes et des mécanismes souvent simultanés. Le manuel répond à cette difficulté par un texte structuré, des objectifs à annoncer, de nombreuses illustrations en couleur et des éléments de vérification des acquis. Les schémas ne servent pas seulement à illustrer un propos, ils permettent de suivre des trajets, de comparer des structures et de visualiser des séquences de régulation qui resteraient difficiles à saisir sous forme purement verbale. Les points de contrôle incitent le lecteur à distinguer reconnaissance et compréhension. Savoir nommer une structure ne garantit pas que l'on puisse expliquer son rôle dans un système. Les applications cliniques replacent quant à elles les notions dans des contextes où les liens entre fonctionnement normal et altération deviennent plus visibles. Les ressources numériques et les vidéos mentionnées pour certaines versions peuvent prolonger cette progression par une représentation dynamique des mécanismes. Cette combinaison convient à un apprentissage progressif première lecture pour établir une carte générale, étude approfondie pour relier les concepts, puis auto-évaluation pour repérer les lacunes. Elle fait du livre un outil de cours et de révision plutôt qu'une simple encyclopédie anatomique. La densité demeure importante, mais elle est accompagnée de repères qui favorisent une étude méthodique. En conclusion, Anatomie et physiologie humaine s'adressent principalement aux étudiants en médecine, en soins infirmiers, en kinésithérapie, en ostéopathie, en sciences du sport et dans les autres formations de santé qui requièrent une compréhension rigoureuse du corps humain. Il est également pertinent pour les enseignants, les professionnels en formation continue et les lecteurs autonomes disposés à étudier un manuel scientifique dense. Son bénéfice pratique réside dans la possibilité de relier rapidement une structure à sa fonction, puis une fonction à la régulation de l'ensemble de l'organisme. Cette démarche soutient la mémorisation durable et prépare à interpréter des situations physiologiques normales ou perturbées avec davantage de méthodes. Sur le plan intellectuel, le livre apprend à raisonner en termes de système, de causalité et de rétroaction plutôt que de retenir des informations fragmentées. Face à des atlas principalement descriptifs, il se distingue par la place donnée aux mécanismes physiologiques. Face à des ouvrages plus synthétiques, il se démarque par son ampleur, son vocabulaire précis et son important appareil visuel et pédagogique. Les objectifs, illustrations, contrôle de connaissances et applications cliniques structurent une progression adaptée au travail universitaire. La spécificité du Tortora est donc de proposer une référence complète où anatomie, physiologie et logique de régulation restent constamment liées. Pour un lecteur, prêt à investir du temps dans une étude suivie, il constitue moins un livre de consultation rapide qu'une base organisée pour comprendre le fonctionnement intégré du corps humain. Si vous souhaitez soutenir Gérard G. et Tortora, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.